Merci d'écouter RFI, les minuit en temps universel, 2 heures à Gaza et Tel Aviv.
Mathis Limano.
Il y a un peu moins d'une heure, 2 bus ont quitté dans la nuit une prison israélienne en Cisjordanie occupée. Acclamés à leur passage, ils sont remplis des 90 détenus palestiniens libérés. En échange, plus tôt ce dimanche, 3 premières otages israéliennes ont été libérées, sont rentrées en Israël. Elles sont en bonne santé, indique l'hôpital de Tel Aviv où elles ont été admises. Premier jour de trêve à Gaza et déjà la question de la reconstruction. Plus de 60% des infrastructures sont en ruine. Combien de temps pour les rebâtir ? On y vient dans ce journal. Et puis l'investiture de Donald Trump, c'est dans moins de 24 heures et déjà les premières mesures annoncées inquiètent particulièrement les migrants, vous l'entendrez. 2 bus viennent de quitter la prison d'Ofer près de Ramallah en Cisjordanie occupée. À leur bord, des détenus palestiniens devant être libérés en vertu de l'accord de trêve. Ils sont au nombre de 90, précise Israël, comme l'accord le prévoit. La trêve à Gaza a vécu son premier jour. Ce dimanche, elle a débuté dans la matinée avec plusieurs heures de retard. Le Hamas tardant a livré la liste des 3 premiers otages libérés. Il s'agit de 3 femmes que l'armée israélienne a récupérées. Elles étaient avec les services de la Croix Rouge qui ont joué les intermédiaires et elles sont en bonne santé, Nicolas Falaise.
Après 471 jours de captivité, les 3 jeunes femmes ont d'abord retrouvé leur famille avant d'être prises en charge dans un hôpital de la région de Tel Aviv. Romy Gonen, 24 ans, Émilie Damari, 28 ans, Ronen Steinbrerer, 31 ans. Les premières photos les montrent souriantes, mais le bandage que porte Émilie Damari à la main laisse deviner qu'elle a perdu 2 doigts. Un peu plus tôt dans l'après-midi, des images en provenance de la bande de Gaza ont permis d'apercevoir les silhouettes des 3 Israéliennes embarquant dans un véhicule blanc du Comité international de la Croix-Rouge. La scène s'est déroulée au milieu d'une foule compacte et alors que des hommes en armes masqués et portant l'uniforme de la branche armée du Hamas encadraient l'opération. Message très clair, le Hamas palestinien affiche sa présence à Gaza dans les premières heures du cessez-le-feu. L'autre versant de cette libération d'otages, c'est le feu vert donné à la libération ce dimanche soir d'une petite centaine de Palestiniens qui étaient détenus dans des prisons israéliennes et qui doivent être conduits vers la Cisjordanie ou Jérusalem-Est. Nicolas Falaise, Jérusalem RFI.
Des milliers de déplacés palestiniens sont déjà en route vers la bande de Gaza, territoire ravagé par 15 mois de guerre. Les 2 tiers des infrastructures, notamment celles liées à l'eau, sont en ruine. Alors cette trêve est-elle synonyme du début de la reconstruction ? Une chose est sûre pour Guillaume Ancel, ancien militaire et auteur du blog Ne pas subir, il faudra au moins 10 ans pour tout reconstruire.
Pour les Palestiniens, c'est évidemment un immense soulagement. On n'arrive pas à imaginer ce que c'est que d'avoir subi plus de 100 000 bombardements. Normalement, un bombardement fait au moins 1 mort et 3 blessés et demi. Par conséquent, on a au moins autant de morts et de blessés. Donc pour les Palestiniens, le fait que ce pilonnage intensif qui durait encore ce matin, jusqu'au début de la trêve, s'arrête, c'est déjà un immense soulagement. Toute la question du jour d'après, de la reconstruction, est nettement plus complexe parce que il faudra d'abord résoudre le problème de la gouvernance. Oui. Qui va contrôler Gaza? Et ensuite, seulement quand la situation politique sera stabilisée, on pourra commencer à reconstruire un pays qui a été complètement dévasté et pollué par cette guerre. Il y a des milliers d'explosifs qui n'ont pas fonctionné. Tout est pollué jusqu'à l'eau. Donc, c'est une reconstruction énorme qui nécessitera, à mon avis, au moins une décennie et des dizaines de milliards de dollars.
Guillaume Ancel, invité de RFI Midi. Plus de 250 camions d'aide humanitaire ont pu s'engouffrer dans la bande de Gaza. Des centaines d'autres véhicules attendent de passer la frontière depuis l'Égypte pour desservir l'enclave. Les Gazaouis, privés de tout depuis 15 mois de guerre, attendent urgemment cette aide. À terme, 600 camions par jour devraient porter secours aux réfugiés. Quant au système de santé, le restaurer sera une tâche difficile et complexe, prévient l'OMS. Et parmi les réactions internationales depuis l'entrée en vigueur de la trêve, Olaf Scholz, le chancelier allemand, appelle à s'engager en faveur d'un État palestinien coexistant en paix avec l'État d'Israël. Le Premier ministre britannique Keir Starmer salue lui une nouvelle fantastique après des mois de supplice. Le Proche-Orient, une région profondément transformée grâce à l'accord de trêve, s'est félicité Joe Biden. Le pape François appelle lui au respect immédiat du cessez-le-feu. J'agirai à une vitesse et avec une force sans précédent. Donald Trump en meeting à Washington DC à moins de 24 heures maintenant de son investiture. Il promet aussi d'arrêter l'invasion aux frontières, l'immigration cheval de bataille du républicain. Donald Trump continue ses attaques contre les migrants. Il veut dorénavant mettre fin au droit du sol dès son arrivée à la Maison-Blanche. Ce droit, inscrit dans la Constitution, garantit la nationalité américaine à toute personne née sur le sol américain, à quelques exceptions près. Alors supprimer le droit du sol, c'est un moyen aux yeux du républicain pour endiguer les entrées illégales aux États-Unis. Mais cette déclaration a suscité de vives critiques et ne passe pas auprès de communautés issues de l'immigration. Reportage d'Edouard May à Gainesville en Géorgie.
Devant une épicerie dans ce quartier avec une importante population latino, une association a installé une table avec des brochures pour informer les migrants sans titre de séjour de leurs droits. Et l'annonce de Donald Trump est vivement critiquée. Joe est né aux États-Unis, sa famille vient du Nicaragua.
Beaucoup de personnes de ma famille sont venues ici pour avoir une meilleure vie et que leurs enfants, comme moi, aient ces mêmes opportunités. Et savoir que maintenant ils pourraient perdre ce droit, mais pour moi aussi, c'est vraiment dingue.
Edgar, dans son pull à capuche, est inquiet de cette potentielle politique.
Je pense que l'annonce de Trump est un signe de fascisme. Les historiens ont écrit sur les signes avant-coureurs et c'en est un, comme s'attaquer à l'éducation, interdire certaines informations et diaboliser certains groupes de personnes.
Israël sort de l'épicerie, des sacs de courses à la main. Né au Mexique, il est en train de faire les démarches pour obtenir la nationalité américaine et ne comprend pas l'annonce du futur président.
Je trouve ça fou car son grand-père est venu ici d'un autre pays, donc perdre le droit du sol, ça n'a aucun sens.
De nombreux experts estiment que cette mesure est impossible à mettre en place, puisqu'un décret exécutif du président ne peut pas modifier la constitution où est inscrit le droit du sol. Edouard May, Gainesville en Géorgie, RFI.
Donald Trump qui veut changer les règles du droit du sol. Seules les personnes nées d'au moins un parent américain ou d'un parent avec un titre de séjour pourraient obtenir la citoyenneté. Donald Trump qui donne des garanties à TikTok, temporairement inaccessible pendant quelques heures. Ce dimanche, le réseau social chinois est de retour pour les 170 millions d'utilisateurs américains, la condition posée par Donald Trump que la société cède 50% de son capital à des investisseurs américains. Au moins 80 morts ces derniers jours en Colombie à la suite d'une attaque menée par la guérilla de l'ELN contre des dissidents des FARC et des civils. Depuis jeudi, les deux organisations s'affrontent pour le contrôle de la région de Catatumbo, cette zone du nord de la Colombie stratégique pour la production de cocaïne. Selon l'armée colombienne, plus de 5000 soldats ont été déployés sur place pour renforcer la sécurité. Au Royaume-Uni, le procès d'Axel Ruda Cubana s'ouvre ce lundi. L'adolescent de 17 ans est accusé du meurtre de trois fillettes. C'était en juillet dernier à Southport. L'événement avait suscité une vive émotion dans le pays et déclenché de violentes émeutes fomentées par l'extrême droite britannique. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez veut interdire l'achat de logements aux investisseurs non européens. Le but de cette mesure, eh bien, c'est lutter contre la crise du logement, Mathias Trude.
27 000, c'est le nombre de maisons et d'appartements que des non-résidents de l'Union européenne ont achetés en Espagne rien qu'en 2023. Et c'est le nombre que met en avant le Premier ministre Pedro Sanchez pour justifier cette interdiction. Concrètement, les ressortissants des pays hors de l'espace économique européen ne pourront plus acheter de logements si ni eux ni leurs familles ne résident en Espagne. Une manière de freiner la spéculation immobilière, c'est-à-dire l'achat d'habitations, non pas pour y habiter, mais pour le profit. Pedro Sanchez s'inspire donc du Danemark et du Canada où des mesures similaires sont en place. Il devra toutefois recevoir l'aval du Parlement, sauf que son gouvernement y est minoritaire. Ce que le Premier ministre socialiste a déjà réussi à faire adopter, en revanche, c'est une grande loi logement votée il y a 2 ans. Elle prévoit plus de logements sociaux, des loyers encadrés dans les zones tendues et des pénalités pour les propriétaires de logements inoccupés. Des mesures qui n'ont cependant pas arrêté la hausse des loyers. Ils ont encore augmenté de 11% l'année dernière.
Mathias Trou, dans Ligue 1 de foot, Marseille accroché par Strasbourg à domicile, 1-1. Même score entre Reims et Le Havre et entre Saint-Etienne et Nantes plus tôt ce dimanche. Angers s'est imposé 2-0 contre Auxerre. En Espagne, le Real reprend la tête du championnat après une victoire tonitruante sur Las Palmas, emmenée par un Kylian Mbappé doublement buteur. Madrid l'a emporté 4-1. Plus qu'un Français en lice à l'Open d'Australie, c'est du tennis. Gaël Monfils peut espérer se qualifier pour les quarts de finale. Pour cela, il doit gagner contre l'Américain Ben Shelton, 20e mondial. Coup d'envoi de la rencontre à partir de 4h30, temps universel. Et puis 3 400 000 euros, c'est l'ensemble l'ensemble des dons récoltés lors du Stream for Humanity, un marathon caritatif qui a mobilisé une vingtaine de stars d'internet tout au long du week-end. L'argent doit être reversé à Médecins Sans Frontières et utilisé en Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban.